Bonjour, je suis donc Victor Charpenet et les travaux que je vais vous présenter, je les ai faits avec Audrey Tanguy. On est tous les deux aux mines de Saint-Etienne, mais dans des laboratoires différents. Et c'est des laboratoires différents parce qu'on est dans l'Institut Fayol, un des 5 centres de mines de Saint-Etienne, qui est le seul centre multidisciplinaire. On a des sciences des données, de l'informatique, des sciences de l'environnement et de gestion. Et c'est un environnement propice à faire des études sur le bilan, l'impact environnemental du numérique. On est deux à avoir fait ces travaux, mais il y a une troisième personne qui travaille avec nous aussi, qui vient des sciences de gestion, notamment pour faire le bilan de notre labo, enfin de notre institut. Je vais donc vous parler d'une analyse de cycle de vie, Life Cycle Assessment, qu'on a fait sur un algorithme de machine learning. Donc les motivations pour ça, elles ont été plusieurs fois évoquées ces deux jours. Vous avez vu par exemple déjà ce graphique, ou du moins une version mise à jour de ce graphique, où on voit qu'au cours des ans, la taille des modèles évolue. C'est OpenAI qui a fait ce graphique en 2018. Et plutôt que de le voir comme un problème, il semblerait qu'OpenAI l'ait vu comme une loi naturelle à suivre, puisque les modèles qu'OpenAI a produits depuis ce moment-là s'alignent assez bien avec leurs prédécesseurs, vers le haut. J'ai vu des travaux... par exemple, qui parlait des centres de données et de la façon dont on peut répartir les tâches de calcul en fonction des énergies renouvelables. Je ne connaissais pas et j'ai mis cet exemple où, quand on parle d'optimisation de l'impact carbone pour le machine learning, on voit souvent ce genre de choses. Ici, on prend l'entraînement de BERT, un transformer, donc un gros modèle de langage, et on voit son impact carbone en fonction du lieu où il a été entraîné et du moment de l'année. Le but étant derrière de faire les calculs les plus coûteux aux endroits où ça coûte le moins cher en carbone. Il me semble que ce genre de travaux ont leurs limites, notamment parce que il se préoccupe pas du tout de la phase d'inférence. Une fois qu'on a entraîné BERT ou qu'on a entraîné GPT 2, 3, 4, on peut facilement partager ce modèle sans avoir à réentraîner et on peut le partager avec énormément de monde. ChatGPT par exemple a demandé beaucoup d'opérations pendant la phase d'entraînement. Ici, l'unité que OpenAI utilise, c'est le petaflop second days. Donc, c'est le nombre de jours qu'il faut pour un calculateur qui peut exécuter un petaflop par seconde. Beaucoup d'opérations, donc, mais derrière, en janvier seulement, il y a eu plus de 100 millions de personnes qui ont utilisé ChatGPT. Ce qui fait que si on rapporte au nombre de personnes, l'impact carbone est assez peut être considéré comme négligeable. Comment faire un calcul qui est pertinent et qui prendrait aussi en compte l'usage du modèle qu'on fait derrière? Il faut donc prendre en compte la phase d'inférence où on utilise seulement le modèle sans l'entraîner. A priori, elle est beaucoup moins coûteuse, mais quand on regarde la publication d'OpenAI sur GPT-3, on voit que les auteurs se targuent d'avoir une inférence qui représente au minimum 400 watt-heure pour 10 pages, non pour 100 pages. Alors j'ai fait une toute petite erreur de calcul, je vais vite passer. Ça représente quand même beaucoup. Ça représente plus, là c'est pas 3 heures, c'est moins, mais ça représente beaucoup plus que une requête sur une base de données, même si cette base de données elle est très large. Moi, je ne fais pas de machine learning à la base, je fais de la représentation des connaissances, et donc j'utilise souvent des bases de données qui ont de la taille de Wikipédia, et on peut le faire sur nos machines. C'est difficile de faire tourner GPT-3 sur une machine, sur un ordinateur portable. Ce serait intéressant de comparer l'impact carbone de ChatGPT par rapport à une requête, et donc je reviens à cette idée qu'il faut prendre en compte l'usage du modèle qu'on produit, parce que souvent on pose des questions à ChatGPT qui sont des questions qu'on pourrait aussi poser à Wikipédia, qui répond en quelques secondes vers une page qui donnera la réponse. Donc nous, on n'a pas l'habitude avec Audrey de travailler sur ChatGPT ou Wikipédia, mais on a des contacts avec des entreprises qui vendent des services avec du machine learning dedans, et notamment OpenStudio, qui vend principalement une plateforme d'e-commerce qui s'appelle Telia, et qui propose des services, par exemple, de recommandation sur les utilisateurs, leurs clients pour Telia. En gros, l'architecture de leur service. Il y a tout à gauche Telia, qui est une plateforme qui va utiliser une API de recommandation et qui envoie des données sur les interactions qu'il y a entre les usagers de Telia et les produits qui sont vendus par les clients d'OpenStudio. Deux API donc qui sont récoltées par un serveur web écrit en Python, ça c'est anecdotique. Toutes ces données, elles sont stockées dans une base de données PostgreSQL. Ça représente 36 mois de données, deux fois, puisqu'il y a le modèle du jour et le modèle de la veille qui est stocké dans cette base de données. Et tous les jours, il y a un second composant qui utilise HDFS et TensorFlow pour produire un modèle de recommandation. En termes de déploiement, ces deux composants ils sont dans un container Docker sur un serveur virtualisé chez OVH. On aurait bien aimé faire la CV sur l'ensemble du service, mais on n'avait pas toutes les informations, notamment pas les logs de ce qui se passe sur Telia, sur la plateforme de e-commerce. Donc en fait, on s'est rabattu sur uniquement le composant TensorFlow qui produit le modèle. Donc tout se passe comme si chaque jour la plateforme Telia envoyait ses logs et le composant TensorFlow renvoyait un modèle, et c'est ensuite la plateforme de e-commerce elle-même qui exploite le modèle et fait des recommandations. Le système, quand on le voit du point de vue ACV, on le voit en termes de process. On a un process qui, donc des process classiques de transfert des données, de chargement de ces données, d'entraînement et de ensuite transfert du modèle. Et on a un process qui est souvent négligé ou pas mentionné pour parfois de bonnes raisons. C'est celui du développement initial du modèle qui correspond au temps qu'on a passé en tant qu'humain à développer le modèle et à déployer le service. Ces processus, ils font référence, eux, à des processus classiques de fourniture d'électricité, d'équipement de calcul et et les périphériques. Et ces process, on les a pris dans une base de données d'ACV. On a utilisé le logiciel OpenLCA pour produire les chiffres que je vais vous présenter juste après. On a eu quelques infos d'OpenStudio quand même. On n'a pas eu les logs, mais on a eu les heures de développement initial et les temps de calcul sur le chargement des données et leur entraînement. Le chargement des données, ça signifie que On prend ce qui est dans la base de données, on le transforme en dataset HDFS, qui peut ensuite être consommé par TensorFlow. Et vous voyez que ça représente les trois quarts du temps de calcul. On avait un temps de calcul, mais ce qu'on voulait, c'était une énergie qui était consommée par les processeurs. Donc on a resimulé ce processus. On a pris le premier tutoriel de TensorFlow pour faire de la recommandation. Je pense que c'est à peu près le modèle qu'a OpenStudio, mais ça on ne sait pas. Et ça nous donne ces profils-là, donc ça nous donne une énergie consommée pour le chargement et l'entraînement du modèle. Donc on a 15 watts en moyenne pour le chargement, 30 pour l'entraînement. Et ça, on a donc un chiffre en valeur absolue pour l'impact carbone du service, simplifié sans les logs. Et ce que vous devriez voir ici, c'est que, en fait, pour 2 ans et demi de service, c'est le temps que, pendant lequel a été déployé Telia. C'est toujours en service, mais ça l'est depuis 2 ans et demi. On a 57 kilos qui viennent du développement initial et peu de choses pour l'entraînement et le chargement, alors que ça représente 2 ans et demi de calcul quotidien. La raison, c'est qu'en fait, on suppose que les personnes travaillent tout le temps sur leur ordinateur, et on prend en compte à la fois le coût carbone de la fabrication et de l'usage de leur ordinateur. Et une heure tous les jours pendant 2 ans et demi, ça représente en fait beaucoup moins. Et il y a une deuxième chose qui est intéressante, c'est que le chargement des données, qu'on prend souvent pas en compte dans les études pour faire le bilan carbone d'un modèle, ça représente 70% du reste. Le chiffre qu'on obtient, il est du même ordre de grandeur que les calculettes qu'on peut trouver en ligne, Green Algorithms par exemple, ou Machine Learning CO2 Impact, mais on a une différence quand même. Ça vient du fait qu'on prend en compte la fabrication du serveur. Alors qu'on est optimiste sur plein de choses, on n'a pas par exemple de facteur correctif pour le serveur. D'un point de vue de la CV, quand on regarde la base de données OpenLCA, il n'y a pas de différence entre un ordinateur portable et n'importe quelle autre machine qui fait du calcul. Donc on a dit qu'un serveur, c'était à peu près la même chose qu'un ordinateur portable. Ensuite, on suppose que la virtualisation n'a pas de coût, que les serveurs ils sont tout le temps en activité, et donc on prend juste un ratio du temps de calcul sur le temps total que peut fournir un serveur. Donc il y a cette limite quand même essentielle au calcul qu'on a fait, qui est que ça ne prend pas en compte les appels API, les appels d'API pour avoir des recommandations depuis la plateforme et pour envoyer les logs. La plateforme Telia sur laquelle on a obtenu les chiffres, elle a quand même 15 000 requêtes par jour, ce qui représente aussi beaucoup de calculs pour le serveur virtuel. Si on considère que ça prend 100% du temps de calcul, c'est 24 heures qu'il faut considérer et pas une heure de calcul. Si une requête c'est une seconde, il faut considérer que c'est 6 heures de calcul. Bref, ça augmente beaucoup la partie exploitation du modèle, mais ça c'est sûrement surestimé, on n'a pas de chiffres là-dessus. Voilà, pour conclure, en une phrase, ce qu'on voulait montrer avec ce calcul, c'est moins l'impact absolu, c'est le fait que ce qu'on a tendance à négliger en tant qu'informaticien, c'est en fait le plus important quand on fait un calcul qui se veut être complet. C'est le développement initial, c'est la collecte des données. Et Dans notre cas, par exemple, le simple fait de transformer des données qui sont dans une base de données en quelque chose que TensorFlow peut utiliser, ça prend la majorité du temps, alors que ça ne devrait pas. Et les ingénieurs qui ont conçu ce système s'en préoccupent pas du tout, parce qu'ils ont a priori pas la conscience que c'est ce qui va consommer le plus, alors que ça devrait être facile d'optimiser. Voilà.
Super, merci.